RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marie Kirsch qui est chargée d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Marie.
Bonjour Alain.
Bienvenue parmi nous et Antoine de Vulpilière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Vincent Klimveig qui est président et cofondateur de European Digital Group. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1980, juriste et business de formation et vous avez commencé comme avocat chez White & Case. Pourquoi vous avez quitté la robe pour devenir entrepreneur là ? C'est tranquille comme métier avocat, non ?
Non, effectivement, c'était très surprenant quand j'ai décidé de quitter la robe pour le web, pour monter des startups.
Oui.
Tout le monde m'a pris pour un fou. J'ai monté ma première startup qui n'a pas marché.
Alors,
et
c'était donc, en quelle année votre première startup ?
Ma première startup, c'était en 2010.
Alors, 2010, elle n'a pas marché.
Elle n'a pas marché.
Et donc, pourquoi elle n'a pas marché ?
Elle n'a pas marché parce que je n'étais pas dans le bon time to market. Je voulais monter un TikTok avant l'heure, une Star Academy en ligne. Ouais. J'avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et donc, j'ai fait un gros plantage en 3 ans.
Il venait d'où l'argent d'ailleurs ?
Mes fonds propres. À l'époque, il n'y avait pas de licorne, il y avait beaucoup moins de levées. En 2009-2010, quand monter une startup, aujourd'hui, monter une startup, c'est comme un projet de fin d'études. En 2009, c'était vraiment quelque chose de. C'était vraiment monter une entreprise que de monter une startup. Et donc, quand je me suis planté, tout le monde m'a dit mais Vincent, tu étais avocat d'affaires,
tu
avais fait droit,
école
de commerce.
Tu gagnes bien ta vie.
Tu gagnais bien, tu étais bien parti et tout, et tu as tout raté. Et on t'avait dit, on t'avait prévenu de ça. Et après, quand la deuxième boîte, j'ai relancé après une deuxième boîte qui l'a.
Premier échec là, vous aviez une réputation de loser, les gens étaient gentils avec vous.
Non, moi j'étais retourné vivre chez mes parents, j'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment très malheureux parce que je trouvais que j'avais énormément semé et que je récoltais pas. Et en fait, ce que j'ai compris quelques années après, c'est que sans cet échec, j'aurais jamais eu les réussites d'après, parce que c'est ces échecs qui m'ont donné la rage et l'énergie de monter après des entreprises et qui après pour le coup ont mieux marché.
D'accord. Alors aujourd'hui, donc le groupe European Digital Group.
Après ces aventures, j'avais monté Ametix, une société de services qui a eu une forte croissance, une ETI qui est passée de 0 à 650 salariés en 5 ans. Société qu'on a revendue au groupe La Poste. Et donc ensuite.
Vous l'avez bien revendu, non ? Vous avez peut-être à bien revendre les boîtes, vous, non ?
Je sais pas. En tout cas,
le groupe aujourd'hui, donc c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1400 collaborateurs. Plusieurs métiers, Vincent ?
Donc là, on parle d'European Digital Group. C'est une nouvelle société que j'ai montée suite. Donc j'ai été postier pendant 2 ans. J'ai adoré mon expérience au sein du groupe La Poste.
C'est dur, ça, non ?
Non, c'était passionnant. C'est vraiment un groupe extraordinaire qui se digitalise, qui se transforme, qui a beaucoup de challenges. Et j'ai adoré je fais beaucoup d'amis au sein du groupe La Poste.
Et pourquoi vous êtes parti alors ?
J'avais terminé mon earn-out et après ça, il y a le fonds de private equity Montefiore qui voulait racheter ma précédente boîte et finalement, on avait vendu au groupe La Poste et qui m'a proposé de lancer avec eux European Digital Group. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté pour monter ce nouveau projet il y a un peu plus de 2 ans.
Et donc, les métiers aujourd'hui de cette belle ETI ?
Donc aujourd'hui, European Digital Group, on est à un peu plus de 1500 personnes et on regroupe en fait des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale pour répondre à tous les besoins des grands groupes, des ETI et des PME en termes d'accélération digitale. Donc ça va aller de l'acquisition de trafic, de l'activation, du CRM, du brand content, du social media, de la créa, également de l'IT, de tout ce qui va être cybersécurité. L'idée, c'est d'avoir une offre globale à destination des grands groupes pour les accompagner, sauf qu'on ne sommes pas des généralistes, on a des ultra spécialistes, donc des sociétés dédiées à chaque levier pour les clients.
Et donc, c'est le côté international, dans le nom où on parle de l'Europe, vous êtes présent partout en Europe et en dehors ou pas ?
Alors aujourd'hui, on n'existe que depuis 2 ans et demi, donc on a commencé par la France, les territoires, on est présent dans plus de 25 villes en France et on est présent également à l'international, également en Europe, et la stratégie 2022-2023 est de développer encore plus l'Europe et l'international. Mais aujourd'hui, on est présent en Chine, en Vietnam, au Canada, aux États-Unis. Mais...
Donc une vraie mission mondiale, quoi, Vincent.
On espère. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un très gros pourcentage du chiffre d'affaires, mais l'ambition est là.
Dans vos métiers, c'est l'horreur. Les talents, là, ça coûte une fortune. Ils se barrent au bout de 5 minutes. C'est catastrophique, toi.
Ouais, la clé de voûte de la réussite de nos sociétés aujourd'hui, c'est les talents. Il y a énormément de besoins. Il faut trouver des développeurs, des experts, des traffic managers, tous ces nouveaux métiers.
Mais il y a une inflation aussi sur leur salaire, non ?
Il y a une inflation sur le salaire et il faut réussir à les sourcer, il faut réussir à les attirer avec une bonne marque employeur. Et surtout, il ne faut pas oublier, et ça, c'est quelque chose de très important, parfois que les gens oublient, il faut réussir aussi à les fidéliser. Parce que souvent, on se concentre que sur le sourcing, sur comment attirer les talents. Reste, mais après, ce qui est bien aussi, parce qu'un départ d'un profil, c'est l'équivalent de 6 mois de perte de salaire, le temps de retrouver un autre profil, de remettre un cabinet de chasse pour trouver, de l'onboarder. C'est beaucoup de perte de temps et d'argent. Donc, il faut faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise pour qu'ils restent.
Et associer les collaborateurs au capital, c'est une bonne idée ? Ou alors, vous gardez tout ?
Nous, aujourd'hui, sur 1600 personnes, il y a plus de 80 qui sont actionnaires. Donc on a mis en place beaucoup d'incentives pour motiver, fidéliser et attirer de nouveaux talents.
Antoine ?
Oui, alors le télétravail et certains des outils digitaux qui l'accompagnent se sont généralisés à très très grande vitesse avec l'épidémie de Covid-19. Est-ce que vous, ça vous a fait directement un surcroît d'activité ? Est-ce que vous l'avez observé, des entreprises qui se pressaient à vos portes pour savoir comment mettre en place le plus d'outils possible pour des gens qui n'étaient pas là ?
Alors. Là, je vais dire quelque chose que je déteste dire, parce que...
Soyez naturel, Vincent.
La crise du Covid, c'est avant tout quelque chose d'horrible. Il y a eu énormément de morts et on ne peut pas... Je ne supporte pas les entrepreneurs qui disent « Ah, j'étais un grand gagnant de la crise Covid ».
C'est un peu gâché.
Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas mon discours. Maintenant, vous me posez la question. Le chiffre d'affaires de nos entreprises a cru très sensiblement pendant cette période. Il y avait beaucoup de besoins de digitalisation. Et en fait, ça a fait qu'amorcer un phénomène qui continue même post-Covid. Donc effectivement, ce n'est pas un secteur qui a souffert pendant la crise et post-Covid. Au contraire, ça a beaucoup accéléré.
Un peu comme vous, chez EPSA, ça a cartonné aussi, non ?
On n'aime pas parler de la crise du
Covid. Oui, voilà, personne n'aime en parler.
Non, mais c'est vrai, c'est normal.
Antoine. Alors,
du coup, justement, on a parlé de croissance, on va parler peut-être de décroissance. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tout un secteur de la transformation digitale, mais dont on parle depuis plusieurs années maintenant. Donc, entre les grands groupes qui ont déployé des moyens considérables pour cette transformation digitale, et les entreprises qui se créent, qu'on imagine nativement digitales, est-ce que vous pensez que votre secteur va finalement pas arriver un jour à une forme de maturité digitale chez tout le monde ?
Alors moi, j'aime plus trop parler de transformation digitale, mais plutôt d'accélération, puisqu'effectivement, la transformation a été entamée, et maintenant, on est dans l'ère de l'accélération. Je pense que sur tous nos secteurs, tous nos marchés, y a quand même, c'est un marché qui, en moyenne, croît entre 15 et 20%. Nous, en moyenne, nos filiales, nos entreprises ont fait plus de 50% de croissance organique sur les deux dernières années. Donc on est sur un marché qui performe bien. On essaye, nous, de surperformer ce marché. Et moi, je pense qu'on est encore à l'âge préhistorique de l'accélération digitale et que les entreprises ont encore de plus en plus de besoins et se rendent compte qu'il faut investir massivement. Donc moi, je suis ultra confiant sur
l'avenir, sur quoi, la progression. Antoine, vous qui avez accéléré.
Et dernière question, elle est justement liée à l'accélération de ce marché-là et à son empreinte carbone. On sait aujourd'hui que le secteur du digital devient de plus en plus émissif, ou en tout cas pèse de plus en plus lourd dans les émissions mondiales. Il y a deux questions dans ma question, à la fois de votre point de vue, comment ce secteur-là adresse ses propres émissions et comment il peut potentiellement être une solution pour les autres. J'imagine qu'il y a beaucoup d'innovations digitales qui peuvent aider à minima à piloter les émissions, peut-être à les réduire complètement.
Alors, il y a les émissions et il y a plein d'autres sujets. Nous, on a un expert RSE qui nous accompagne et qui accompagne l'ensemble de nos filiales pour essayer d'être proactif dans ce secteur. Et je peux prendre des exemples d'initiatives. Par exemple, sur tout ce qui va être influenceur, on est en train de lancer la charte de l'influence responsable et on essaye de vraiment montrer l'exemple et de montrer que si l'influence et l'influence marketing est un levier d'acquisition très performant et qui est très demandé, très recherché par les annonceurs aujourd'hui, il en demeure pas moins qu'il faut le faire de manière éthique et qu'il faut encadrer tout ça. Donc là, on est très actif. On est membre de Sista. Pour nous, c'est très important qu'il y ait autant, si possible, de femmes dans nos entreprises, au poste de direction et aussi en tant qu'associés, ce qui est pratiquement le cas dans les associés.
Sur les 80, alors ?
Dans les associés, oui, il y en a, je crois, c'est 35, quelque chose comme ça, qui sont associés sur les 80.
Ouais, plus que 5. Hein.
Par contre, dans les fondateurs, il y en a moins. Il y en a dans les associés qu'on a incentivé au capital.
Et au COMEX,
on est 50-50 au COMEX.
50-50.
Ouais, 50-50.
C'est un homme parfait, Vincent. Marie, qui est une femme parfaite.
Mais je n'ai pas répondu tout de l'avant à la question de l'émission. Oui. Non, de l'émission. Mais effectivement, nous, on a, voilà. Pareil, c'est comme pour tout à l'heure. C'est pas des choses sur lesquelles on aime trop communiquer. Moi, je trouve que c'est bien de le faire et de, d'avoir.
En parler.
Ouais, de pas trop en parler. Mais bon, vous me posez la question, donc je vous réponds. Nous, on a voilà, embauché quelqu'un qui est responsable de ça en interne, parce que c'est quelque chose, voilà, qui nous tient à cœur. Et on essaie d'avoir de plus de démarches RSE possibles et de trouver, voilà, pour chacun de nos leviers, comment faire pour s'améliorer sur ces questions.
Marie ?
Oui, j'avais une première question. Vincent, votre modèle repose sur l'intégration de belles pépites, notamment. Quels sont vos critères ? C'est-à-dire, est-ce que vous raisonnez en termes de robustesse de modèle, de robustesse financière, d'innovation, ou est-ce que vous allez chercher tout de suite une complémentarité métier de quelque chose que vous n'avez pas dans le groupe ?
Alors, d'abord, pour expliquer comment fonctionne European Digital Group, donc moi, je prends des prises de participation majoritaires dans les sociétés qui nous rejoignent, mais les entrepreneurs restent toujours fortement actionnaires de leur société. On est vraiment un groupe d'entrepreneurs.
Et un peu plus haut aussi, ou c'est que de leur boîte ?
Justement. Et en plus, donc ils gardent une partie des parts de leur boîte, et en plus, ils réinvestissent une partie dans European Digital Group, ce qui fait qu'on a un club d'entrepreneurs dans lequel tout le monde est actionnaire de tout le monde, ce qui va favoriser les synergies qui représentent aujourd'hui quasiment 30% du chiffre d'affaires du groupe, les synergies entre les différentes sociétés. Après, en termes de sourcing, on rencontre beaucoup de sociétés. Donc, c'est des centaines et des centaines. Nos critères, c'est on recherche des sociétés rentables. On n'investit pas dans les startups, on investit dans des ETI ou des PME. En fait, on investit dans des PME rentables qu'on va transformer en ETI. Et on se laisse 2 ans pour les faire passer de PME à ETI, toutes. C'est des boîtes qui, en général, font entre 1 et 5 millions d'EBIT. Celles qui font 1 million d'EBIT, on se laisse 2-3 ans pour les faire monter à 3, 4, 5. Et celles qui font 5, on leur fait faire des build-up, des rachats, eux-mêmes de la croissance externe pour consolider leur marché. L'idée étant de jamais mettre de concurrents dans le groupe l'un en face de l'autre. Ils fusionnent entre eux quand ils sont complémentaires. Et dès qu'on a une brique complémentaire, bah là, c'est une tête de pont de notre groupe.
Et une autre question, quels seraient en fait les marqueurs pour créer en fait ce club d'entrepreneurs, c'est-à-dire avoir, vous avez parlé d'une politique RSE importante, on a aussi une marque chapeau, il y a sûrement une culture du club d'entrepreneurs.
Bien sûr, il y a une vraie culture d'entreprise, beaucoup de bienveillance, je dirais presque qu'on est une bande de potes.
Bande de potes, il y a quand même un petit peu d'argent en jeu quand même, non ?
Ouais, mais justement, on a mis en place un système dans lequel on a tous des intérêts communs, oui. Puisqu'on est tous actionnaires les uns des
et
autres.
Et vous engueulez avec personne là, depuis 2 ans ?
Franchement, non. Franchement, au contraire, on s'entend tous ultra bien, ils sont tous en hyper croissance, donc ça se passe magnifiquement bien.
Pour l'instant, tout va bien.
Avec les entrepreneurs qu'avait notre investisseur, donc le fonds Montefiore de Private Equity qui nous accompagne, avec qui aussi... ça se passe très bien. Non, il y a beaucoup de bienveillance entre nous, beaucoup de synergie. Et je pense que c'est ce qui a participé à l'hypercroissance des entreprises. Après, alors dans les règles, pour répondre, je ne me substitue jamais aux dirigeants. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, d'aider tous ces entrepreneurs à se développer. Mais on ne se substitue pas à eux. Ils peuvent utiliser, bien sûr, la marque European Digital Group, mais leurs marques sont également très connues. Donc du coup, ils gardent aussi leurs marques. Voilà, nous, on s'inspire en fait de modèles anglo-saxons, des plateformes comme S4 Capital de Martin Sorrell, qui a eu une énorme ascension en bourse, de modèles comme Stagwell, comme You and Mr. Jones. Il y a eu pas mal de plateformes anglo-saxonnes sur ce modèle. Et nous, on s'inspire d'eux.
Il y a des mises en commun de moyens aussi.
Exactement.
C'est le même DAF du groupe,
ouais,
qui gère les boîtes.
Il y a un DAF groupe, une directrice marketing groupe, un directeur commercial groupe, des équipes...
Vincent, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI de croissance qui accélère ou alors animateur télé ?
Je pense que les deux sont intéressants. Moi, j'aurais adoré être animateur télé aussi, mais on a lancé.
Vous avez quel âge là ?
Mais c'est le cas. On a lancé une émission tous ensemble, les entrepreneurs, qui s'appelle le Tech Show, qui fait 500 000 vues par épisode. Ah, tous les mois, on sort un épisode où on interviewe des personnalités du monde du digital. Les deux sont.
C'est compatible.
Extraordinaire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de TI en France, qu'elles sont effectivement pas assez mises en valeur.
C'est pour ça que TI Radio existe.
Voilà, bah bravo. Notamment. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des licornes.
Alors, côté cuisine, ça c'est vraiment important. Il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation des pâtes, la pasta.
Dans le milieu, on m'appelle King of the Pasta, effectivement.
En toute modestie. Donc, voilà. Bon, notez, Marie-Antoine, on a une bonne adresse là en face. Quoi.
Avec plaisir.
Et quelle pâte vous préférez ? Parce qu'il y a plein de pâtes. Hein.
Ça, vraiment, je peux différentes pâtes. Ça peut être des linguines, des spaghettis.
Il s'y connaît en pâtes. Hein. Et pour terminer, Vincent, vous adorez le jeu d'échecs, les échecs et puis l'échec au sens jeu. Hein. Et le poker ?
Oui. Oui, exactement. Je joue beaucoup aux échecs. Je m'entraîne avec un professeur deux fois par semaine et je joue un peu au poker aussi.
Vous n'avez pas joué votre boîte au poker quand même. Enfin, on peut vous faire confiance. Vous séparez bien les deux trucs.
Ouais, j'essaye de bien splitter les deux.
Merci beaucoup, Vincent. Merci également à vous, Marie-Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain. Ça sera à 14h précise avec un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.